Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Nous sommes le lundi 6 février, les 18h. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, comme tous les 15 jours, la relève, c'est 30 minutes avec un nouveau talent. Aujourd'hui, on va parler d'une des femmes qui est peut-être une des femmes les plus connues du monde, de peinture de la Renaissance et de marketing, avec mon invité qui est bien sûr écrivain. Il y aura toujours un problème avec cette virgule, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Pourtant, pour un écrivain, la virgule, c'est important, non ? Paul Saint-Brie, bonsoir.
Bonsoir Christophe. Oui, c'est assez important, la virgule.
C'est important. Alors nous, on a toujours un problème avec celle qui doit suivre le générique. Et pardon, ça m'amuse tout seul. Alors, je reprends. Paul Saint-Brie, vous êtes l'auteur d'un premier roman très original qui s'appelle « L'allègement des vernis ». Il a paru aux éditions Philippe Ray. Et pour commencer, je voulais juste vous promettre qu'on ne terminera pas l'émission en parlant de la sexualité des seniors. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir, je crois, page 217 de votre roman. Je cite de mémoire, mais je crois que c'est page 217. Ils comprendront l'allusion. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez rencontrée, cette femme si connue ?
Oui, je m'en souviens. Je l'ai rencontrée en fait très tôt dans ma vie, parce que j'ai eu la chance de baigner dans un univers léonardien, puisque le Clos-Lucé qui est la...
On n'a pas encore dit qui c'était alors, ouais, c'est la alors Mona Lisa.
C'est la Mona Lisa. C'est la Mona Lisa, voilà.
Alors, oui. Clos-Lucé, pardon.
Donc, le Clos-Lucé qui est, appartient à ma famille et l'endroit où Léonard de Vinci a passé les trois dernières années de sa vie. Et c'est un lieu qui a été ouvert au public par mon grand-père en 1954, qui est un lieu qui est dédié à la connaissance de Léonard de Vinci. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup de représentations de Mona Lisa. Mais moi, j'avais du mal en tant qu'enfant de faire le rapprochement entre les Léonards ingénieurs qui nous passionnaient et le peintre. Et je me disais, il y a combien de Léonards dans l'Ade ? Chez Léonard de Vinci.
Mais c'était plus Léonard ou Mona qui vous intéressait à l'époque ?
Moi, je pensais vraiment Léonard au départ. Moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était Léonard de Vinci, ingénieur. Et voilà, j'ai mis du temps à faire le rapprochement.
Et donc la Mona Lisa, vous voyez des fausses ? Vous avez été voir
Bien sûr, là je vous parle évidemment que de fausses, de copies.
Vous n'aviez pas la Joconde au Clos-Lucé ?
Non, non.
Donc vous vous êtes emmené au Louvre, très jeune, la voir ?
Non, mais j'ai un nom qui nous faisait croire que la vraie était au Clos-Lucé et que la fausse était au Louvre. Donc on n'avait pas l'urgence d'aller au Louvre.
Ah, c'est une clé peut-être sur le livre, ça d'ailleurs.
Peut-être.
Donc on vous emmène, du coup, je ne sais toujours pas, on vous emmène au Louvre voir la fosse et voir le reste.
Oui, alors bien sûr, évidemment, je suis allé au Louvre plus tard et j'étais à la fois, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Je crois, ce qu'on m'avait vanté sur la Joconde, c'est qu'elle nous suivait du regard.
Ah oui, ça, je me rappelle voilà, de ça, on nous disait ça.
On nous disait ça, donc c'est la première chose que j'ai vérifiée. Pour le reste, je dois dire que je n'ai pas été complètement époustouflé hein, par la vision du tableau. Je pense que quand on est jeune, enfant, après tout ce qu'on nous a dit sur elle, il y a forcément un petit désenchantement.
Est-ce qu'on a quand même une idée de ce qui la rend unique ? Est-ce qu'on peut expliquer le succès de cette image-là depuis maintenant plusieurs siècles
hein ? Oui, de plusieurs façons. D'abord, il y a une réalité artistique, technique. C'est vraiment la Joconde. Quand Léonard peint la Joconde, il est au summum de ses capacités. C'est la quintessence de tout son apport à la peinture. Et on peut parler notamment du sfumato qui permet de rendre si bien le dégradé des peaux, de fondre le premier plan avec l'arrière-plan. Parce que
C'est une technique qu'il invente ?
Ça, c'est une technique qu'il maîtrise. C'est une technique qu'il invente. En fait, il comprend très vite que contrairement à ses contemporains, ce qu'on voit n'est pas cerné d'un trait, vous savez. Par exemple, Botticelli, c'est très beau, mais toutes les figures sont cernées d'un trait. Et Léonard, il a cette volonté de faire disparaître la frontière entre les plans et de fondre, et c'est aussi c'est philosophique dans sa peinture, c'est de fondre le premier plan avec l'arrière-plan, de l'intégrer complètement dans son univers. Donc, d'abord, on peut dire que la Joconde, elle est techniquement au-dessus du lot. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est son histoire extraordinaire, puisque...
Elle arrive sur une bourrique. Pardon, c'est pas ça, c'est vrai que vous avez raconté, mais c'est quand même génial. Elle arrive à d'autres bourriques en France.
Alors, c'est vrai qu'elle arrive, à d'autres mulets, ça c'est vrai.
Oui, oui, moi je rajoute un peu.
Non, mais c'est vrai, ça participe certainement de sa célébrité. Mais.
Vous vouliez dire autre chose et je vous ai coupé, pardon.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que dès qu'en fait, très vite, dès la mort de Léonard, 30 ans après, quand Vasari écrit ses vies, il écrit de la Joconde, que c'est une œuvre qui fait craindre et trembler. Parce qu'elle était la vie même. ça veut dire à quel point il a été impressionné par le par le par ce tableau. Et après, ça n'a jamais le tableau n'a jamais cessé de gagner en popularité. On pense bien sûr aux romantiques, mais je crois que ce qui a vraiment déclenché cette espèce de folie joconde, c'est le vol de 1911 où elle est volée par un vitrier du Louvre, Vincenzo Perugia, je crois. C'est son nom exact, et qui la subtilise et va la cacher dans une chambre de bonne à Paris pendant 2 ans avant d'essayer de la revendre à Florence. Et
là, vous, vous en parlez dans le livre, on ne va pas tout raconter parce qu'il faut aussi que les gens aient envie de lire votre livre, mais l'histoire est assez géniale. Cette chambre qui sera... Lui, il sera interrogé, mais la chambre ne sera pas fouillée parce qu'on n'imagine pas un tableau Paris chez lui.
C'est ça.
L'histoire est quand même assez géniale.
C'est ça.
Pardon. Donc, elle arrive en France, elle est peinte, elle est admirée, mais c'est aussi un tournant dans l'histoire de l'art parce que ce n'est pas un sujet religieux, c'est un moment... est-ce qu'on peut déjà parler d'une sorte de ça, je ne vais pas arriver à le dire, d'un moment où la peinture n'est plus religieuse, où elle devient... je cherche le contraire religieux, profane. Je trouve profane, voilà.
Oui, moi, je crois beaucoup à ça pour expliquer le succès de la Joconde. Ma théorie personnelle sur ça, c'est que si elle est populaire, c'est aussi qu'elle est d'une certaine manière étrangement banale, en tout cas normale, peut-être. C'est une jeune femme qui doit avoir 23 ans, 24 ans, selon la datation, si on s'en tient à 1503, date de sa création. Elle a ce sourire qu'on connaît tous, etc. Mais si vous voulez, c'est pas une princesse, une reine, comme une femme puissante, c'est une bourgeoise de Florence, de la classe moyenne.
Elle n'est pas non plus d'une beauté exceptionnelle, c'est pas Vénus sortant des eaux.
Et oui, moi je trouve aussi effectivement qu'il y a d'autres sujets qui peut-être la dépassent. Enfin bon, ça c'est très personnel. Mais donc, et peut-être que dans cette normalité de la Joconde, en fait, peut-être, c'est mon intuition, qu'on peut retrouver le quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol, cette promesse qu'on peut devenir célèbre. Même si finalement, juste parce qu'on est soi-même, quoi.
Andy Warhol qui lui-même lui redonne une couche de, puisqu'on va parler bientôt d'allègement des vernis, mais alors lui il lui redonne une couche dans la célébrité en faisant une icône.
C'est vrai.
Vous diriez que c'était le premier selfie de l'histoire? Ah, elle ne sait pas elle-même, mais non, le cadrage, on pourrait presque croire que c'est un cadrage de selfie aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, c'est surtout un cadrage taille réelle. Et c'est ça aussi, en fait, c'est une œuvre qui crée une intimité avec celui qui la regarde.
Alors, vous imaginez dans votre roman, et c'est le point de départ, qu'on décide un jour de restaurer la Joconde. Enfin, on décide, c'est-à-dire qu'au musée du Louvre, des gens très, très intelligents décident qu'il faut restaurer la Joconde. On viendra après sur pourquoi il faut le faire. Restaurer un tableau, si on ne connaît pas du tout la technique, en quoi ça consiste? C'est pas le nettoyer avec un super plumeau? C'est prendre des produits peu dangereux?
Alors, tout dépend du diagnostic, tout dépend de l'état du tableau, mais... En ce qui concerne la Joconde, dans l'histoire de la Joconde, il s'agirait d'alléger ses vernis. Alors pour bien expliquer ce que c'est, en fait...
C'est-à-dire qu'il faut déjà expliquer les vernis.
Voilà, il faut expliquer les vernis. Donc quand un tableau est terminé, le peintre, une fois qu'il a achevé son tableau, le recouvre de vernis. Et ces vernis sont là pour protéger le tableau, mais aussi pour harmoniser les couleurs et pour donner de la profondeur aux couleurs. Et ça, c'est très important parce que quand on compare un tableau qui n'est pas verni à un tableau verni, ça n'a rien à voir, on a l'impression qu'il y en a un qui est vraiment vivant. On peut dire que les vernis apportent la vie. Alors, le problème, c'est qu'avec le temps, ces vernis s'oxydent, ils s'opacifient, ils jaunissent, et finalement, ils dégradent la vision du tableau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans les musées de tableaux qui sont très foncés, très jaunes. Ils n'ont pas été peints comme ça, c'est parce que les vernis ont oxydé.
La Joconde n'est pas verdâtre.
La Joconde n'a pas été peinte, non, exactement, elle n'est pas verdâtre. Et donc...
Je suis un peu dur là avec elle.
Vous n'êtes pas si dur, parce que si vous la voyez sans la lumière, il y a un éclairage très perfectionné dans sa vitrine qui permet de lui redonner un peu des couleurs froides. Mais en fait, elle est quand même très jaune, très jaune, un jaune qui tire vers le vert. Et donc, le meilleur moyen finalement de retrouver les couleurs originelles, c'est d'alléger ses vernis, c'est-à-dire d'amincir avec des solvants, de venir diluer ses vernis anciens avec des solvants et d'un coton-tige, et parfois même... un scalpel pour les retirer, et on arrive ainsi à retrouver les couleurs originales.
Voilà. Et là, c'est là où il y a, en vous lisant, parce que moi j'ai découvert ça, là il y a un moment qui est très particulier, c'est le moment où on s'arrête. C'est savoir jusqu'où on peut retirer, d'abord on peut atteindre à l'intégrité de la toile, et puis même on peut peut-être retirer trop de vernis et donc fausser aussi les couleurs et peut se passer peut-être d'un trop vert à demain un trop... un trop jaune ou un jaune, je ne sais pas quelle différence.
Oui, alors effectivement, il y a deux. Alors, tout l'enjeu de la restauration, vous l'avez dit, c'est savoir où on s'arrête.
C'est génial, je trouve.
Sur un tableau comme la Joconde, le problème qui est posé, qui est un vrai problème technique, c'est que Léonard, il peint avec des pinceaux, et puis ensuite, il vient ajouter ce qu'on appelle des glacis qui viennent finaliser tout en douceur le modelé des carnations, etc. Et pour ça, en fait, c'est des pigments qui sont dilués dans des vernis. Donc, c'est déjà des vernis. Et ensuite, enfin, voilà. Donc, ça veut dire que si on dissout trop de vernis, on pourrait venir à dissoudre les glacis qui sont une couche intermédiaire entre les pigments et les vernis. Et là, on perdrait tout le modelé et toute la finesse, en fait, de Léonard. Donc déjà, il y a ce problème technique. Et ensuite, il y a un problème qui est vraiment culturel, qui est l'appréciation qu'on a, nous, culturellement, sur une peinture vernie ou non. Et par exemple, on peut dire que les Anglo-Saxons, ils aiment particulièrement les tableaux qui sont des vernis. Et à tel point que quand on organise des expositions avec des tableaux qui viennent de l'étranger, on a l'impression que nos tableaux à nous, latins, français, italiens, eh bien, font un peu tache parmi... ont l'air vieux parmi leurs tableaux qui sont au contraire éclatants.
Et une des particularités de Léonard de Vinci, c'est qu'il finissait pas ses tableaux, c'est ce que vous racontez, enfin, en tout cas.
Oui.
Il était connu pour pas fort toujours. C'est un peu dans un, on dirait dans le monde des startups aujourd'hui, dans un work in progress.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Donc, dans votre livre, tout cela se fait au nom du business, du marketing. On retrouve McKinsey à la manœuvre, hein, comme par hasard. Aujourd'hui, la logique marchande est à ce point présente dans un grand musée comme le Louvre. Vous avez enquêté sur comment fonctionnait le Louvre aujourd'hui?
Alors, elle l'est inéluctablement, et puis bon, moi, je ne leur jette pas la pierre, je comprends très bien la nécessité de faire venir des publics et davantage de faire venir le public et de faire venir les non-publics, c'est-à-dire de faire venir des gens qui, spontanément, ne s'intéressent pas ou ont moins d'intérêt pour le musée. Et pour ça, eh bien, tous les moyens sont bons, y compris les réseaux sociaux, y compris des partenariats, y compris faire venir Beyoncé et Jay-Z pour un clip au Louvre. Ça, on comprend très bien la logique d'ouverture.
Nécessité.
Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il faut vraiment vendre des jeans japonais pour vendre la victoire de Samothrace?
Oui, parce que là, dans, parce que j'étais un peu vite, mais ce que vous imaginez, c'est qu'un jour, la présidente du Louvre décide de, avec des consultants et un cabinet qui porte un nom que j'ai oublié, décide de revoir complètement la Joconde et de faire cette restauration, pas du tout pour des raisons esthétiques ou des raisons artistiques, mais parce qu'il faut redonner un coup de fouet à la fréquentation et faire revenir le truc. C'est si on la restaure, les gens vont revenir voir la nouvelle Mona Lisa.
Voilà, elle a un objectif de rentabilité. J'imagine que l'État souhaite se désengager de sa part de financement dans le Louvre, et donc elle est contrainte de trouver de faire venir plus de monde. Et un des moyens de faire venir du monde, eh bien, c'est de restaurer la Joconde pour amener les gens à venir la revoir.
Et vous avez discuté avec des conservateurs quand vous leur avez dit ça, ils vous ont dit c'est complètement farfelu, ou certains ont dit tu vas leur donner des idées, arrête tout de suite.
Non. Non, je pense que ça, c'est vraiment de la fiction. C'est vraiment de la fiction, mais ils sont assez quand même, je les ai trouvés assez conscients des possibles dérives marketing. Enfin, voilà, il y a, comment dire, un équilibre à trouver.
Il y a la boutique toujours à la sortie.
Oui, voilà, entre là, exactement.
On peut appeler ça que les marchands du temple. Il y a vraiment le musée.
Oui, tout à fait.
Et on a quand même les magnets pour les frigos. Maintenant, dans n'importe quelle exposition, ça me fascine toujours, ça.
C'est vrai.
D'avoir
c'est vrai.
Un Van Gogh sur son frigo, c'est le sommet. Alors, puisque je viens de faire mon quart d'heure vieux machin, je vais vous demander à vous, est-ce que c'est votre personnage ou est-ce que vous aussi vous regrettez qu'on consomme aujourd'hui l'art davantage, qu'on ne sache vraiment regarder les œuvres?
Bah moi, je suis... je vais un dilemme, forcément. Et j'ai ce dilemme-là parce que je contribue beaucoup par mon métier. Je suis directeur artistique et photographe réalisateur. Donc, je contribue moi-même à la boulimie visuelle de l'époque, à la frénésie visuelle de l'époque. Et je déplore parfois qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter sur les images, qu'on n'ait même plus le temps de les regarder. Et je me dis aussi, est-ce que notre génération, elle est capable de créer des images qui vont nous survivre 500 ans, comme les grands chefs-d'œuvre de la Renaissance? Et donc, voilà, je suis tiraillé comme tout le monde, je crois, dans ces problématiques.
Dans votre livre, quand on arrive à la fin, on a l'impression que pour vous, il y a deux façons pures, finalement, d'aimer un tableau. Il y a celle très intellectuelle, très savante d'Aurélien, le conservateur, qui est spécialiste de la peinture, de la Renaissance, et qui est un peu, je pense, votre porte-parole. Et puis, il y a un autre personnage, dont je ne vais pas dire le nom pour réserver la surprise à ceux qui vous liront, et qui vit ça un peu comme une passion amoureuse, c'est presque charnel son rapport à la Joconde. Vous croyez vraiment qu'il y a soit une façon très intellectuelle, soit une autre très physique de vivre la peinture ?
En tout cas, je voulais défendre toutes les façons d'aimer la peinture. Et il y en a encore d'autres dans le livre, vous avez très bien dit.
Moi, j'ai vu ces deux-là.
Il y a celle-là, il y a Aurélien qui lui, donc, pense la peinture avec sa tête, en intellectuel, avec ses connaissances académiques. Il y a Gaetano, le restaurateur, qui lui... Lui, il vit la peinture de manière organique, il la renifle, il fait l'amour devant, il a quelque chose de très... Voilà, avec son corps. Et il y a Homero qui, lui, le vit avec un élan du cœur. Et dans certainement un élan affectif, pratiquement. Et je pense en fait que tout, c'est ça, la grande force du roman, c'est qu'elle permet d'explorer. Et moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, pour dire qu'il y a une façon de faire qui serait mieux qu'une autre. Je pense que ça nous permet d'explorer et d'une certaine manière de légitimer chacune de ces manières de rentrer en relation avec l'art.
Quelle est la place justement dans le monde de l'art des restaurateurs, des restauratrices ? On a l'impression qu'ils sont entre les spécialistes, les conservateurs. C'est un milieu très... On n'est pas... Bon, vous exposez d'ailleurs le débat. Est-ce qu'ils sont ou pas des artistes ? Ouais. Qui sont ces personnes ?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner, à me passionner pour ce métier de restaurateur, je me suis d'abord dit que c'était un métier génial d'un point de vue dramaturgique pour raconter des histoires, parce que c'est un métier qui confronte un artiste et un technicien sur l'espace limité de l'œuvre pendant une durée longue. Hein. Une restauration, ça peut durer 6 mois, parfois 1 an. Et donc il y avait quelque chose pour la dramaturgie. Et je me suis rendu compte, c'est un métier qui a toujours été, qui est assez mal connu et qui a été marqué de nombreuses polémiques. Hein. Il y a eu la Chapelle Sixtine, il y en a eu plein, hein, des Rembrandt dont on a dit qu'ils avaient été complètement massacrés, oui, etc. Ouais. Et je ne sais pas si c'est un métier qui est assez bien considéré. Je pense qu'il devrait être mieux considéré parce que c'est un métier qui requiert infiniment de sensibilité artistique. Et je crois que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que de tout temps, l'administration, en fait, a essayé de cantonner ce métier à vraiment à un rôle purement technique, vous voyez, un métier de technicien. En écartant la part artistique et sensible.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on leur route finalement leur sensibilité. Là, ouais. Là dans votre livre, on imagine une technique pour... proposer quatre possibilités pour le contraindre, le restaurateur, pour pas qu'il aille trop loin, parce qu'on a peur d'une chose, c'est qu'il aille trop loin et qu'on ne reconnaisse plus Mona Lisa après.
Parce qu'en fait, au final, ça reste toujours, on le voit très bien, même pour les plus grands chefs-d'œuvre, ça reste toujours une confrontation entre un artiste et le restaurateur. Quand bien même il y a des commissions, quand bien même il y a des conservateurs, etc., finalement, c'est un tête-à-tête.
Mais ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les œuvres, quand on va au musée, quand on va au Louvre, que ce qu'on regarde la Mona Lisa ou d'autres tableaux, on ne les voit jamais comme ils ont été voulus, mais comme d'abord le temps les a fait évoluer, puis comment d'autres restaurateurs, pour d'autres œuvres, les a transformés.
Oui, alors c'est quand même les restaurateurs, ils ont une déontologie qui est très, je vous l'ai dit, c'est très cadré, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Quand même d'une certaine manière, ils font pas n'importe quoi. Il y a eu des abus, on les connaît.
Il y a peut-être eu des accidents même.
Il y a eu des accidents, et bien sûr, il y en a. Mais quand même, ils ont une très grande conscience.
Mais ils ont la main qui tremble, j'imagine, comme on dit. On dit ça.
Oui, certainement.
On dit ça qu'il ne faut pas toucher à la Constitution sans trembler de la main. Là, j'imagine qu'on s'attaque pas à un tableau sans réfléchir avant à ce qu'on va en faire.
Bien sûr, ils sont très précautionneux et ils ont des comptes à rendre aussi. Donc, ils font très attention. Non, et je pense aussi que l'époque a changé. Maintenant, on est très vigilant. Mais c'est vrai, par exemple, il y a une époque où il y avait une affaire Rembrandt et Clémenceau s'en était mêlé et disait que le restaurateur se promenait à la nuit tombée avec un pinceau et qu'il retouchait les tableaux un peu au gré de son humeur comme ça. Ça, c'est clairement...
C'est du mythe un peu, non ?
Comment ?
C'est du mythe.
Un mythe. En tout cas, pas aujourd'hui, ça n'existe pas.
Moi, j'ai un ami photographe qui dit toujours que... La photo, il y a la prise de vue, c'est comme le compositeur qui écrit, que le tirage, c'est l'interprétation que par un orchestre, par un chef. Oui. Est-ce que c'est un peu la même chose là ? Il y a le tableau et puis il y a le restaurateur qui interprète ce qu'il voit.
Alors, bon, déjà, tous les tableaux n'ont pas besoin de restauration. Il y a des tableaux qui sont très bien conservés ou qui ont...
Ils sont trop jeunes pour être restaurés.
Ouais, peut-être qu'ils sont trop jeunes ou c'est des restaurations mineures, ce qu'on appelle des bichonnages, des nettoyages, voilà.
Des bichonnages.
Oui, c'est un terme qu'on trouve...
Je vais me faire bichonner, moi.
Dans la littérature. Mais non, un allègement des vernis, ça demande vraiment...
Ça, c'est le gros œuvre.
C'est pas Grozov, hein. Il y a bien pire. Il y a tout ce qui est vraiment tous les accidents matériels sur le support, les toiles déchirées. Je crois que le pire, c'est le manque. C'est-à-dire quand il y a toute une zone qui manque, et alors là, il faut la réinterpréter. Et c'est pour ça, par exemple, que il y a un grand penseur de la restauration qui a imaginé le Trattegio, c'est-à-dire qu'on vient combler les manques, non pas en essayant d'imiter le peintre, mais d'une manière pointilliste ou avec des traits. Pour bien, voilà. En fait, la grande préoccupation des administrations culturelles, c'est de bien faire la part des choses entre le travail du restaurateur et le travail du peintre.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
Voilà, c'était Miley Cyrus Flowers.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Paul Saint-Brie, auteur de L'allègement des vernis aux éditions Philippe Reyes. C'est votre premier roman. Comment vous êtes devenu romancier? Puisque comme vous l'avez dit, vous êtes directeur artistique, plutôt photographe. L'écriture, c'était pas forcément votre moyen d'expression préféré, je sais pas. Vous me regardez la radio.
Oui, non, si. Moi j'ai toujours.
Vous avez toujours écrit en fait.
J'ai toujours un peu écrit. Il y a aussi un atavisme familial pour l'écriture, et ça fait partie de moi. Je suis surtout lecteur. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on écrit d'abord parce qu'on est lecteur et qu'à un moment on a envie d'ajouter sa voix au chapitre. Et voilà. Et puis je pense que.
Mais alors vous là, c'est des comment? Et vous avez eu du temps? Vous êtes. Aviez depuis longtemps l'idée ou vous attendiez l'idée, puis l'idée est arrivée, vous êtes mis à écrire?
Alors en fait, je travaillais sur des projets de fiction, de films, de synopsis de films. Et puis à un moment, je me suis dit, et puis j'ai eu cette idée de la restauration de la Joconde. et que je laissais mûrir un certain temps, mais elle me semblait intéressante parce que je pouvais parler de thèmes qui m'étaient chers. En fait, c'est d'abord un livre sur la beauté et notre rapport à la beauté, à l'art, et puis c'est un livre sur notre relation au changement. Et ça, c'était très important, c'était des questions que je me posais, que je me pose toujours, et que je trouve passionnantes, et je voulais explorer ça. Et je me suis dit qu'avec, par le biais de cette restauration de la Joconde, je pouvais parler de tous ces sujets. Et puis, vous savez, le processus pour faire un film, c'est très long. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire vivre ? J'avais besoin
de... Vous aviez envie de le faire vivre avant que de trouver des producteurs, d'arriver à tout monter.
Et il y a cette phrase de Truffaut qui dit, si vous n'arrivez pas à en faire un film, faites-en un livre. Et je pense que...
Bonne idée. Hein. En l'espèce, on remercie Truffaut. Vous espérez quand même toujours en faire un film ?
J'aimerais beaucoup.
Alors, en devenant romancier, vous, en même temps, vous ne prenez pas trop de risques parce que là, il n'y a personne qui vient régir les vernis. Personne ne retouchera jamais votre texte, normalement.
Non, c'est vrai. En plus, oui, c'est ça. Un des grands avantages de l'écriture, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut.
Alors, ce que j'ai réalisé en préparant l'émission, sauf les traductions, on retraduit, parce qu'on modernise les traductions, pas les auteurs en langue française, mais régulièrement, maintenant, on retraduit les vers. Parfois pour des histoires de droit, parce que c'est un moyen de garder les droits, mais aussi parce qu'on ne parle plus pareil. Donc, c'est très marrant qu'on le fasse sur les traductions et que ça choque personne.
C'est possible, alors, oui, c'est vrai, j'ai entendu dire ça aussi.
Alors, est-ce que votre livre s'inspire de la quête de l'obsession de notre période actuelle pour la jeunesse, pour, est-ce que finalement cet allègement des vernis, c'est aussi la quête d'une jeunesse éternelle à base d'acide botulique?
Oui, je pense que ça faisait partie aussi des... sans aller jusque-là, c'est aussi...
Moi, je vais toujours un peu trop loin. Être restaurateur, je le sais.
Non, mais c'est aussi une quête de l'image clinquante. Vous voyez, cette quête du neuf, en fait. Hein, au-delà, même sans parler des corps, c'est une quête du neuf. On a toujours envie de choses neuves, de choses qui ont l'air... sur lesquelles le temps ne se voit pas. Et moi, je suis assez attaché au passage du temps. En fait. Je trouve que c'est comme ça que les choses sont belles.
En peinture, oui, c'est assez évident, oui, qu'il faut que le temps passe et comme un vin, quoi, que ça vieillisse,
oui,
exactement.
Je crois.
Comment on fait pour aimer une femme pareille que tout le monde admire ?
Je pense
que... Est-ce que vous arrivez à avoir un rapport personnel à Mona Lisa ?
Oui, c'est une super question. Je crois que Homero pourrait nous donner une clé, c'est que le personnage d'Homero dans mon roman... C'est peut-être avoir l'impression qu'en fait, elle vous parle spécifiquement à vous, vous savez. C'est un peu comme dans le Spike Jonze, c'était Her, je crois. Hein, où en fait, l'intelligence artificielle ne parle qu'au... Enfin, il a l'impression qu'elle lui parle à lui et il se rend compte à la fin du film qu'elle parle à des millions de personnes, de la même manière qu'elle lui parle.
On peut arriver à avoir une relation... Alors là, on ne va surtout pas révéler la fin du livre, mais on peut arriver à avoir une relation personnelle à un tableau.
Je pense, oui. Je pense qu'on peut avoir une relation personnelle avec un tableau. Je pense que d'ailleurs, que les tableaux étaient conçus pour être vus dans l'intimité. Et c'est d'ailleurs une des exergues du livre, cette phrase de Vincent Delevingne qui dit que la Joconde est condamnée à ne plus jamais être observée comme elle devait être, c'est-à-dire dans un tête-à-tête. C'est-à-dire que les tableaux, il faut imaginer que à ces époques de la Renaissance, ces tableaux, ils étaient faits pour être vus, pour être accrochés dans les chambres des princes ou dans des églises éclairées à la lueur de bougies et qu'on ne pouvait pas s'en approcher comme on peut aujourd'hui, les voir se déployer sous des millions de pixels. Donc c'est sûr que notre rapport aux œuvres a changé et d'une certaine manière, on peut se poser la question du rôle du musée là-dedans, qui à la fois, c'est génial parce que tout le monde peut avoir accès à la peinture et en même temps, d'une certaine manière, la vocation originale de ces tableaux, elle est un petit peu
perdue. Juste avant de finir, un petit mot sur Aurélien. On sent que vous l'aimez beaucoup, Aurélien. Le personnage, c'est vous dans le livre ?
Non, je ne peux pas dire que c'est moi dans le livre, tout à fait. Je pense qu'il est conservateur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se pose des questions. Et en fait, c'est quelqu'un qui cherche à réévaluer son regard sur le monde. Il a hérité d'un regard, il est encombré par ce regard dont il a hérité.
Mais une mère qui n'était pas très cool.
Oui, c'est ça. Mais
il a été élevé dans l'exigence, peut-être un peu trop même.
Exactement, il est élevé dans l'exigence de la beauté, mais il cherche sans cesse à réévaluer son regard. Et pour ça, je le trouve très touchant, en fait. C'est un conservateur assez sympathique pour ça.
Est-ce que comme lui, vous découpiez des images quand vous étiez petit, que vous les colliez? Parce que moi, je me suis rappelé que je le faisais quand j'étais petit. Non, mais vous le faisiez.
Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. En tout cas, j'avais cette croyance comme lui que je pourrais voir toutes les images du monde. Et j'étais assez déçu, et d'autant plus quand Internet est arrivé.
Et aujourd'hui, on a trop d'images, selon vous, parce que vous-même vous en produisez, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous participez à ça. Vous pensez qu'on voit trop d'images et qu'il faudrait apprendre à re-regarder peut-être de façon un peu plus sélective?
Oui, en tout cas, je ne vois pas comment on peut enrayer la machine, mais c'est vrai qu'on produit beaucoup trop d'images, qu'on n'a plus le temps de s'attarder sur elles, et que du coup, c'est un peu triste, ouais, ça c'est sûr.
Alors, on est lundi soir, demain, Louvre est fermé, mais alors, pour les gens qui nous écoutent, vous leur conseillez mercredi d'aller voir la Joconde à la première heure? Pourquoi il faudrait aller voir la Joconde mercredi matin à la première heure? Allez, vous avez une minute.
Ah, pourquoi il faut la voir? Parce que c'est une bon, évidemment, parce qu'elle est mythique, mais peut-être parce que si vous y allez à la première heure, vous aurez la chance d'être presque seul avec elle. Il faut vraiment être les premiers. Et oui. Là, hein, et vous allez pouvoir découvrir toutes les subtilités de ce tableau et comprendre pourquoi elle est une telle star. Et pouvoir vous attarder sur la délicatesse de sa carnation, sur son habit, vous allez peut-être pouvoir voir le voile. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me perdre dans le paysage derrière.
Il y a un second plan qui est important.
Un second plan qui est important, qui est très typique de ce qui est fait du travail de Léonard de Vinci, avec un paysage presque crépusculaire, des montagnes, un lac, et puis ce pont, qui est le seul élément humain, en fait, hein, dans ce paysage crépusculaire. Et donc c'est un tableau quand même qui offre beaucoup de choses à voir, et puis ce sourire qui est très mystérieux, dont on ne sait pas si c'est le début d'un sourire, la fin d'un sourire, s'il porte une ironie, une douceur. En fait, George Sand a dit quelque chose d'extraordinaire sur la Joconde, c'est qu'à chaque fois qu'on la regarde, eh bien, on lui prête une humeur différente. Et ça, c'est très vrai.
Donc il faut y aller mercredi, jeudi, vendredi, puis tous les matins. Voilà. Merci beaucoup, Paul Saint-Brie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'allègement des vernis aux éditions Philippe Rey. Merci vraiment d'être passé par notre studio.
Merci beaucoup, Christophe. Merci.
Voilà, c'était La Relève. L'émission était présentée et préparée par Christophe. La réalisation était assurée par Alison. Je crois qu'on va bientôt monter un duo, Alison et moi, qui s'appellera Les Virgules. Voilà, vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À 19h, normalement, vous retrouvez la matinale. En attendant, c'est le programme musical. Il est déjà 18h32 et 54 secondes sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.